Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour, vous écoutez Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur le www.radiodiwa.fr. C'est Tania pour l'interview du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Haut Diwa en compagnie de Bertrand Mahé qui vient pour nous parler d'un spectacle intitulé « L'homme qui plantait des arbres ». Ce spectacle aura lieu ce samedi 19 mars à 20h45 à Valmaravel. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors pour commencer, nous allons parler un petit peu de vous, de votre parcours artistique. Il me semble que vous êtes musicien.
Oui, tout à fait.
Vous jouez de quel instrument ?
Mon instrument principal, c'est le piano. Ouais. Au moins, c'est celui que j'ai appris dans les règles. Et puis par ailleurs, je joue aussi de l'accordéon, mais ça, je l'ai appris tout seul. Et puis, il est vrai que, ben justement, notre travail dans le cadre de la compagnie Arniphone m'a amené à jouer de... à faire sonner un certain nombre d'autres instruments, comme le tuba, comme la sitar vietnamienne, comme des percussions, ah ouais, etc. Voilà, mais là, c'est juste des... c'est pas vraiment faire un concert avec, c'est jouer pour illustrer.
D'accord, c'est un accompagnement.
Voilà,
tout d'accord. À fait. Et le piano, alors, ça vous a appris quand ?
Oh là, le piano, moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans.
Ah oui ?
J'ai une formation au piano classique, et puis... Et puis, en fait, je n'ai pas continué professionnellement dans cette voie-là. J'ai fait tout à fait autre chose. Et puis, une opportunité a fait que la musique s'est présentée professionnellement à moi. Donc, je l'ai saisie. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai repris sérieusement mon piano classique et très rapidement. J'en suis venu au piano jazz.
Ah oui.
Et c'est quand même ma musique et ma façon d'aborder cet instrument.
D'accord. Voilà. Et pour en venir au spectacle L'homme qui plantait des arbres, il est produit par quelle compagnie ?
Eh bien, c'est par la compagnie Arniphone que nous avons créée avec Flora Capitagne, qui se trouve aussi être une Flora Mahé depuis maintenant 34 ans. Mais bon, il a fallu attendre un certain temps avant que le couple d'amoureux puisse travailler en tant que musicien.
Ouais.
C'est pas toujours facile.
Donc vous travaillez ensemble sur ce spectacle ?
Oui. On travaille ensemble depuis maintenant 2008. Nous sommes arrivés dans le Diwa en 2006. Et finalement, c'est le Diwa qui nous a inspirés et qui a généré la création de cette compagnie Arniphone, qui s'est un peu spécialisée dans l'accompagnement musical de films muets.
D'accord.
Comme on faisait il y a 100 ans. Et d'ailleurs, notre premier spectacle, c'était le 1er janvier 2008 au cinéma Le Pestel.
D'accord.
Avec le caméraman de Buster Keaton.
Waouh.
Voilà.
Et elle est basée où ? Vivez où ?
Eh bien, nous sommes sur la commune de Boulk. Voilà,
à côté,
voilà, on est à 1000 mètres d'altitude, effectivement, à côté de Châtillon-Diwa. Voilà.
D'accord. Et pourquoi Arniphone ?
Ah, pourquoi Arniphone ? Eh bien, on n'est pas très doué pour trouver des noms, pour
c'est
donner
très
des
joli,
titres.
Hein.
Ah bon, ben merci, c'est très gentil.
Que je vous posais la question.
C'est très gentil. Alors, c'est complètement inventé. C'est un mot inventé. Tout simplement, on cherchait un mot qui puisse être un peu unique pour que quand les gens recherchent sur Google, ils soient sûrs de le trouver. Donc, on a fabriqué ce mot. Et puis après, alors maintenant, on peut évidemment le justifier après coup. C'est-à-dire que dans Arniphone, il y a phone, P-H-O-N-E, donc c'est le son en grec. Et ça correspondait bien à nos activités. Et puis Arni, on ne sait pas du tout, mais on a trouvé après coup, mais très longtemps après, que Arni, c'était le nom du buffle d'eau en Inde. Donc voilà, notre compagnie, c'est le souffle du buffle.
Ah bah parfait.
Oui, et puis il reste plus qu'à, on n'a plus qu'à s'appeler Lao Tse, et puis voilà, c'est bon.
C'est voilà. Prometteur. Mmh. Donc, L'homme qui plantait des arbres est un spectacle vivant, alliant diverses expressions artistiques, bien ça ?
Oui.
Ciné, lecture, concert.
Voilà. Oui, ben, c'est-à-dire que la base de ce spectacle, c'est quand même le texte de Jean Giono,
oui.
L'homme qui plantait des arbres. écrit donc en 1953, enfin, on pourra en parler peut-être un petit peu après, parce qu'il a eu une histoire extrêmement étonnante. Et puis, il se trouve que, bien sûr, nous lisons ce texte, nous le disons par moments, puisque dans la mesure où on fait de la musique en même temps, on ne peut pas tenir le bouquin d'une main et puis jouer qu'une partie de l'instrument avec l'autre main. Donc il y a un certain nombre de passages qu'on a appris par cœur. Et puis en même temps, il y a projection donc, du film de Frédéric Bach,
ouais,
qui est un Français, mais qui a vécu et qui a fait, enfin, qui est devenu très célèbre à partir du moment où il s'est installé au Québec.
D'accord, donc, c'était un peintre ?
C'était un peintre, effectivement, à la base, un peintre, un illustrateur, un dessinateur. Et puis, Frédéric Bach, à partir de 1968, donc, rentre dans l'équipe de Radio-Canada et fait un certain nombre de films d'animation. Et donc, c'est comme ça qu'il a... comme c'était quelqu'un qui était un écologiste avant la lettre, il est tombé, évidemment, totalement amoureux du texte de Giono, « L'homme qui plantait des arbres », et il en a fait un remarquable film d'animation, mais c'est presque difficile de dire film d'animation étant donné tout ce que regroupe ce terme aujourd'hui. Là, on a affaire à du pastel animé. Ce film a été élaboré à partir de 20 000 dessins. Il a mis 5 ans à le faire. Donc c'est vraiment
20 000 dessins,
oui, parce que c'est l'animation au sens très traditionnel, image par image. Et donc c'est un régal pour les yeux. Enfin, c'est une exposition de peinture qu'on a finalement qui est projetée à l'écran. Et il a obtenu d'ailleurs, donc il a fait ce film en 1987, il est sorti, et en 88, il a obtenu un Oscar pour ce film. Il en avait déjà obtenu un, d'ailleurs, en 82, pour son autre film d'animation, Le Fleuve. Donc, c'est Giono, évidemment, n'a pas connu, Frédéric Bach. Il est décédé avant que Frédéric Bach ait mis en dessin, en pastel, donc, son texte. Mais je suis certain qu'il aurait totalement adoré.
Et pouvez-nous raconter un petit peu l'histoire de l'homme qui plantait les arbres ? Ça va parler de quoi ?
Alors, l'histoire de l'homme qui plantait des arbres, il faut peut-être revenir à la genèse de cette petite nouvelle. Le Reader's Digest, je préfère le dire à la française parce que mon accent anglais sera pas bon, et donc commande à Jean Giono en 1953... un texte ayant trait à un personnage remarquable, je ne sais plus quels sont les termes exacts, un caractère inoubliable que vous auriez rencontré. Il se trouve que, à l'époque, le Reader's Digest, dans tous les pays d'Europe, comme ça, contacte un écrivain bien connu, pour lui demander un texte avec cette même thématique, à savoir un personnage inoubliable qu'ils auraient rencontré. Et Giono, d'aucuns disent en une nuit, d'autres en trois jours, pond ce texte, le fait taper à la machine par sa femme, et puis donc l'envoie au Reader's Digest. Alors, évidemment, le Reader's Digest, devant ce texte, trouve ça absolument admirable, ça correspond parfaitement. Alors, de quoi s'agit-il ? Giono raconte l'histoire, fait comme si lui se serait baladé sur les hauteurs d'une région à laquelle nous appartenons, d'ailleurs, puisqu'au début du texte, on parle d'une région dont la limite sud serait le cours supérieur de la Drôme, vous voyez, de sa source jusqu'à Die. Donc on est en plein dedans. Et à l'occasion de cette balade, il rencontre un berger dont, au-delà de s'occuper de ses moutons, la principale activité, c'est de planter des arbres, planter des chênes dans une région qui souffre de la sécheresse et qui a souffert aussi de la déforestation, d'autant plus que c'est une région qui a subi l'exode rural, donc il n'y a plus grand monde. Et puis après l'histoire, si vous voulez, écrite de telle façon qu'elle est totalement plausible. On croit vraiment qu'elle est vraie et que ce fameux Elzéar Bouffier, qui est le héros du bouquin, a existé. D'ailleurs, il nous donne même la date de sa mort, dans quel hospice il est mort, etc. Alors, mais quand même, le Reader's Digest est un peu... Voilà, ce que Giono ne savait pas, c'est que le Reader's Digest, lui, faisait des enquêtes pour savoir si tout ça était vrai. Ouais, et il découvre le poteau rose. Ouais. Et ils disent à Giono, mais enfin, c'est scandaleux. Giono répond, vous savez, moi, je fais pas trop de différence entre le monde réel et le monde c'est imaginaire.
C'est mon création.
Oui, je suis un écrivain, donc blabla. Ah, donc, le Reader's Digest ne publie pas son œuvre, mais une revue américaine la publiera l'année d'après, donc en 54. Et c'est la revue Vogue, d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, ce qui est curieux, c'est qu'il faudra attendre 1980 pour que ça soit publié en France.
Ah oui.
Et en français. Parce que, bien sûr, quand ça paraît en 54, comment dirais-je, dans la revue Vogue, c'est traduit en anglais. Mmh. Et ensuite, ça a été traduit en pratiquement 16 langues avant que ça paraisse en français.
Ouais, c'est assez habituel.
Alors, c'est assez étonnant. C'est quelque chose d'un peu unique dans l'œuvre de Giono. Et c'est paru quand même en 73 dans la Revue Forestière en France. Voilà, c'est tout, mais dans une revue, pas sous forme de livre. Donc, l'histoire, voilà, c'est celle tout simplement... alors, ça peut paraître banal, évidemment. Quelqu'un qui plante des arbres... Enfin, tout au moins, à l'époque, ça pouvait paraître banal, parce qu'aujourd'hui, ça prend un sens très, très fort.
Ah oui, aujourd'hui.
Énorme, énorme. Et du coup, ce texte échappe au temps et prend le chemin de l'universalité. Donc, il est évident qu'au-delà de l'histoire proprement dite, d'Elzéar Bouffier, de ce qu'il faisait. Il y a, à travers cette écriture, il y a une ode à la nature, il y a une ode au rapport entre l'homme et la nature, au rapport harmonieux, bien sûr, à la persévérance, mais une persévérance tranquille de ce berger qui plante des arbres. Il y a quelque chose il y a une non-violence absolument délicieuse tout au long du texte. C'est un chant, donc je crois que la musique y avait totalement sa place.
Ouais. Et donc Flora va faire la lecture de ce texte ?
Non, Flora va pas faire la lecture, Flora est musicienne, Flora donc capitaine de son nom de jeune fille, c'est-à-dire Flora est d'origine hongroise.
D'accord.
Mais par contre, elle nous lira effectivement certains passages en hongrois.
Ah bon ?
Alors là, bien sûr, à ce moment-là, ça sera sous-titré à l'écran. Ben, c'est pour témoigner de deux choses. D'une part, du fait que justement ce texte a été traduit en 16 langues avant même d'être publié en français. Et puis d'autre part, témoigner non seulement de l'universalité de ce texte, mais de l'universalité aussi du langage cinématographique, puisque c'était, quand on a découvert le cinématographe, comme on disait au tout début, eh bien, il y a eu tout un tas d'écrits sur « ça y est, nous avons trouvé le langage universel ». Et donc, c'est aussi pour témoigner de ça, dans la mesure où le texte est lu ou dit, et derrière, c'est donc du cinéma, c'est du film d'animation, mais c'est du cinéma. Donc voilà, donc le texte, la plupart du texte, c'est moi qui vais m'y coller.
D'accord. Et là, j'ai quel instrument pour accompagner
Flora va essentiellement jouer de son instrument, à savoir le violoncelle.
Waouh!
Elle jouera aussi des bols chantants chinois. Elle jouera aussi d'un certain nombre de petites percussions.
D'accord, voilà. Mais c'est plus qu'un spectacle, c'est un voyage.
Ah oui, c'est un voyage, vous avez raison. Et puis, d'autant plus que, alors donc, Floras va se trouver, comme on dit, au théâtre, à jardin, c'est-à-dire pour les spectateurs qui regardent l'écran, à gauche de l'écran. Moi, je suis à droite avec l'accordéon, la sitar vietnamienne, des gongs aussi, des woodblocks vietnamiens, une flûte, enfin bon, voilà.
D'accord.
Donc, il y a du mouvement, on se lève, on passe, il y a une petite théâtralisation, mais notre rôle n'est pas, nous, de nous mettre en avant, et je dirais même pas de mettre en avant Giono ou Frédéric Bach, donc l'auteur du film, mais de mettre en avant l'arbre.
L'arbre.
Voilà, l'arbre et les rapports harmonieux entre l'homme et la nature.
Pourquoi ça vous a autant touché, en fait, ce texte ?
Ben, je dois vous dire, et que ça n'est pas le texte qui nous a touchés au départ, c'est le film.
Le film.
On a, il y a très longtemps, on avait vu, en sortant un DVD, hein, on avait vu, dans une médiathèque quelconque, on avait vu ce film de Frédéric Bach, et on est tombé sous le charme de ces images, de cette façon extrêmement originale aussi, de traiter l'animation, parce qu'il faut dire qu'en tant que créateur de films d'animation, il a une technique très particulière de crayon de cire sur acétate de cuivre. Ça fait très savant, mais je crois que c'est exactement... Non, moi non plus, hein. J'observe le résultat, mais vous, si vous venez en tout cas à ce spectacle, vous verrez que comment dirais-je, le résultat est unique. C'est une technique d'animation... oui, vraiment unique. Donc, on a affaire là à deux originalités très fortes, parce que il faut dire que dans l'œuvre de Giono, ce texte aussi est unique. Il a renoncé à tous ses droits d'auteur pour ce texte.
Ah ouais. C'est voilà. Un cadeau.
Ben oui, parce qu'il a tenu après. Est-ce que c'est après coup? Est-ce que c'est en l'écrivant? Je ne sais pas. Mais il voulait que ce texte permette au lecteur d'aimer l'arbre et encore plus d'aimer planter des arbres. Donc voilà, il a eu ce renoncement et on a quelque chose d'un peu voilà, on organise une espèce de rencontre. Donc effectivement c'est un voyage, mais je pense que pour Giono et Frédéric Bach qui est décédé donc en 2013, il n'y a pas si longtemps, c'est une rencontre posthume aussi pour eux.
D'accord. Voilà. Vous avez apporté de la musique
aujourd'hui?
Oui.
Ah oui, je vous ai apporté mais je ne vous ai pas apporté notre musique, parce que ça, je pense que c'est bien plus agréable à découvrir dans un spectacle vivant. Et puis c'est pour ne pas trop dévoiler aussi tout de suite.
Ah oui.
Non, je vous ai apporté la musique de la voix de Jean Giono.
Wow.
Qui a été, c'est une interview de 1953, donc l'année où a été écrit L'homme qui plantait des arbres, et justement Giono parle de musique, parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'était un grand amoureux de la musique, il adorait la musique, et il écrivait d'ailleurs, un certain nombre de ses textes ont été écrits en écoutant de la musique. Et là, dans cette interview de 1953, il nous parle du trombone de son grand-père maternel. Alors,
on écoute? Allez.
Sur le côté du lit, à la tête du lit, il y avait le trombone de mon grand-père.
C'était le talisman, enfin c'était...
C'était plus que le talisman, c'était l'instrument... L'instrument, sans parler d'instrument de musique, c'était l'instrument avec lequel, disait-elle, mon grand-père maternel avait gagné la vie de toute la famille.
Et est-ce que vous aviez du respect pour ce trombone? Est-ce que vous aviez l'impression que...
Absolument d'aucun respect. J'étais harassé d'entendre raconter cette histoire du trombone.
Mais dites l'oncle, est-ce qu'il s'en saisissait de ce trombone? Personne n'en jouait plus, enfin. Personne ne le faisait sonner, si, tout de même.
Si, mon oncle a eu une vie très étrange, et au moment où il se retirait dans la campagne, un petit bastidon que nous avions dans les bois, il avait emporté avec lui, sous son bras, le trombone du grand-père. Il l'avait emporté pour l'astiquer, pour le rendre extrêmement brillant, et il le gardait.
C'est
une sorte de pie, vous savez, il avait emporté ça comme une pie.
Mais en fait, ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi tant de soins, tant d'astiquage et tant de respect pour cet engin.
Eh bien, parce que le grand-père maternel, ne parlons pas du géant, hein, le grand-père maternel, ce qui est drôle, c'est que le géant, en même temps, est parti pour faire son service, pour faire ce qu'on appelait son temps à cette époque. Il est parti dans les Zouaves, et il a fait la guerre d'Italie, la guerre de 1852, les batailles d'Italie. Il a fait Magenta, Solferino, et au retour... Comme il n'avait pas de raison pour revenir reprendre son métier, qui était un métier pénible, c'était le métier de tanneur, alors il rengagea et il devint trombone à la garde impériale. Et même premier trombone à la garde impériale. On était très fiers d'être premier trombone à la garde impériale dans ma famille. Il arrivait assez souvent que mon père, à table le soir notamment, lorsque on se détendait un peu, mon père parlait de son père à lui, à ma mère. Ma mère lui rétorquait, oui, mais moi, mon père était premier trombone à la garde impériale.
Et ça, c'était quelque chose, hein.
Ah oui, premier trombone, et ça, 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 ça,
c'est,
Ça mettait un terme et une conclusion définitive à toute la conversation. Mon père ne disait plus absolument plus rien, n'est-ce pas? Lui, il n'avait que son premier trombone, qu'une espèce de grand géant avec un gibus et une cravate, une espèce de carbonaro qui avait probablement fait des trucs en Italie. Ça, personne n'en savait rien, n'est-ce pas? Mais ce qui était certain, c'est que mon grand-père maternel était premier trombone.
Et il faisait de la musique et il faisait danser les filles, non?
Ah ben ça, oui, après, quand il est revenu. Mais avant de revenir, il a fallu qu'il rencontre ma grand-mère pour qu'il puisse y avoir ma mère. Quand il est devenu gagiste, c'est-à-dire qu'il a eu le gage, qu'il s'est rengagé comme premier trombone dans la garde impériale, il avait, paraît-il, alors là j'en parle les termes même de ma mère, des sons filés, si moelleux, que l'impératrice elle-même le faisait venir quelquefois au palais pour jouer devant les dames d'Atours et devant elle-même. Alors vous comprenez que là-dessus, le carbonaro ne pouvait pas lutter.
L'homme qui plantait des arbres, alliant plusieurs expressions artistiques, ciné, lecture, concert, est-ce que vous voulez bien nous dévoiler un peu le déroulement du spectacle? Comment ça va se passer?
Alors ça va se passer peut-être d'abord par un petit mot, un petit peu d'explication hein, sur sur la genèse de ce spectacle et puis sur les œuvres qui sont présentées. Et puis ensuite on aura en première partie, et cette fois-ci sans aucun texte, un petit film d'un quart d'heure d'un peintre dessinateur chinois qui s'appelle Tiwi, qui a vécu 95 ans et qui a inventé une technique là aussi très originale, à savoir le lavis animé. Vous savez que la peinture chinoise est basée sur la technique de du lavis, mais jusque-là, personne n'avait réussi à faire un film d'animation à partir de lavis. Mmh. Eh bien, voilà, Tiwi a donc découvert cette technique unique au monde. Et là, on a choisi... Alors, Tiwi dirigeait le studio de Shanghai hein, depuis 1949, donc c'est quelqu'un qui, en Chine, est très connu. Et là, on a choisi, bien sûr, une thématique qui se rapproche de l'histoire de Giono et du film de Frédéric Bach, et puis de nous aussi, dans la mesure où il s'agit de la transmission, d'une transmission de savoir entre un joueur de sitar, donc qui chemine dans les montagnes chinoises, et qui rencontre un jeune batelier, et qui lui transmet donc son savoir musical. Et donc à la fin, que c'est le jeune batelier qui est devenu joueur de sitar. Et tout ça se passe dans des montagnes, donc on est très proche aussi là, par les montagnes de la thématique de l'histoire, en tout cas de Giono. Et il se trouve que vraiment les deux techniques picturales, parce qu'on a affaire à des peintres plus qu'à des cinéastes, les deux techniques picturales du lavis animé et puis du pastel animé de Frédéric Bach, vraiment se rencontrent et on passe de l'une à l'autre sans même s'en apercevoir. Et voilà. Et puis il faut dire que le film de Frédéric Bach dure quand même une demi-heure, c'est un peu court aussi, donc en rajoutant un quart d'heure, on a quand même trois quarts d'heure de spectacle, ce qui est aussi tout à fait bien pour les enfants, parce qu'il faut ajouter que dans la mesure où il y a quand même le texte de Giono, c'est plutôt un spectacle pour les enfants à partir de 6 ans.
D'accord. Donc je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que ce samedi 19 mars à 20h45 à Valmaravel aura lieu un spectacle intitulé « L'homme qui plantait des arbres ». Donc c'est le comité des fêtes de Valmaravel qui organise cette soirée, c'est bien ça?
Tout à fait.
Oui. Et vous savez où il aura lieu à Valmaravel?
Eh bien, à la salle des fêtes de Fourcinet.
D'accord. Donc on entre dans Valmaravel et c'est une salle
Non, en fait, Valmaravel, c'est un regroupement de plusieurs petites communes. Donc quand on rentre dans Valmaravel, en fait, là, la première ancienne petite commune dans laquelle on rentre, c'est Fourcinet.
D'accord.
C'est Fourcinet, voilà. C'est à Beaurières. Il faut aller jusqu'à Beaurières. Et puis en venant en tout cas de Die, avant d'entrer dans Beaurières, à gauche, c'est fléché Valmaravel, ou c'est Fléché Fourcinet, je ne me rappelle plus.
C'est inscrit Valmaravel.
Valmaravel, voilà. Ouais. Et puis on arrive sur Fourcinet.
D'accord. Vous nous rappelez l'heure ?
20h45.
Ouais, le tarif ?
Alors le tarif donc est de 8 euros et gratuit pour les moins de 10 ans.
D'accord. Est-ce qu'il y aura de quoi se restaurer ? De quoi boire ?
Si vous avez été sage.
D'accord, on sera
sage. Je ne sais pas. Je ne sais pas sage. Ce qu'ils ont prévu.
Et faut-il réserver ? Ou on peut venir comme ça ?
Non, je pas. Non, enfin, je ne crois pas qu'il soit prévu des réservations.
D'accord. Hein. Et moi, j'ai une petite question. C'est le comité des fêtes qui vous a contacté ou c'est
oui.
vous qui... D'accord.
Oui, c'est le comité des fêtes qui nous a contacté.
Bah,
oui,
c'est plutôt bien de voir un,
oh, c'est super.
Un spectacle ouais, d'Alma ouais. Ravel.
Oui, ouais, super.
Okay. Donc, nous rappelons que... Le 19 mars à 20h45 à Valmaravel aura lieu un spectacle intitulé « L'homme qui plantait des arbres ». Vous avez quelque chose à rajouter ?
Eh bien, bon spectacle, puisque bon tous spectacle. Les gens qui vont écouter cette émission viennent, c'est bien entendu.
C'est sûr.
Donc on souhaite un bon spectacle à tout le monde.
Merci beaucoup, Bertrand.
Merci pareillement.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.